Donc on a vu deux exemples de systèmes possédant une invariance de jauge et on a vu que dans chaque cas, la transition au formalisme hamiltonien faisait apparaître des contraintes sur les variables de l'espace des phases et que ces contraintes engendraient les transformations de jauge. Et ceci n'est pas un accident. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas développer le formalisme général, mais je vais simplement vous dire ce qu'on trouve en général. On trouve exactement la même chose que ce qu'on a vu dans les deux cas de Chern-Simons et Maxwell. Formulation hamiltonienne des théories avec invariance de jauge. Donc, comme je l'ai expliqué, si on part du Lagrangien, la transformation de Legendre est non inversible. Mais néanmoins, on peut s'en sortir, comme on a pu le faire dans les deux cas considérés. Et à la fin, on obtient l'action sous forme hamiltonienne suivante. Donc elle va dépendre non seulement des variables de l'espace des phases, des variables canoniques. Donc je vais écrire les choses comme si tout était de dimension finie, mais on peut facilement interpréter les formules dans le cas général. Mais en plus des Q et des P, donc de l'espace des phases, il y aura des multiplicateurs de Lagrange. Donc, une fois qu'on a suivi la méthode que Dirac nous dit qu'il faut suivre pour couvrir ce cas, où la transformation de Legendre est non inversible, on arrive à une action sous forme hamiltonienne qui dépend d'un espace d'espace de la manière tout à fait standard, mais aussi de variables supplémentaires. Et l'action prend la forme PIQ.I. Donc on a la structure symplectique qui apparaît par le terme cinétique, et puis il y aura un hamiltonien, et puis les multiplicateurs de Lagrange avec un certain nombre de contraintes. Donc exactement comme on a trouvé, alors les Q et les P, ça peuvent être des champs, auquel cas l'indice I, comme on l'a vu, se réfère aussi à la position d'espace, et la somme implique une intégrale sur l'espace, comme on l'a vu. Donc par exemple, dans le cas de Chern-Simons, l'espace des phases, c'était les composantes spatiales du potentiel vecteur, et lambda alpha, c'était à zéro. Et donc ici, on avait la partie cinétique A phi A point R, H était égal à zéro. Peut-être il y a un terme de surface, mais je n'ai pas encore discuté en détail les termes de surface. Donc, en tout cas, la partie de volume est nul, enfin à l'intérieur du disque c'est nul, et là on avait F1,2. Il n'y a qu'un seul multiplicateur de Lagrange par point. Dans le cas de l'électromagnétisme de Maxwell, des phases, il y avait non seulement les AI, cette fois-ci le X n'est pas nécessairement deux dimensions, et les moments conjugués. Les moments conjugués, c'est le champ électrique. Dans le cas de Maxwell, on avait de nouveau le A0. Donc ici, on a la structure cinétique standard PI à point I, comme on l'a vu. Le hamiltonien n'était pas nul, mais donné par une intégrale de la densité d'énergie, E carré plus B carré, hein, écrite en termes de variables hamiltoniennes. Et là, on avait la loi de Gauss, qui était moins PI, moins DI PI. Hein, donc vous voyez, on a en fait chaque fois la même structure, et on a aussi vérifié que ces contraintes engendraient les transformations de jauge. F1,2 le fait, mais évidemment la structure dans le premier cas, et c'est DIPI qu'il fait dans le deuxième cas, alors ces fonctions ne sont pas les mêmes, mais la structure symplectique n'est pas la même, mais c'est bien le générateur dans chaque cas des transformations de jauge. Donc, cette structure en fait s'applique à toutes les théories de jauge. Quand on passe à l'hamiltonien, un certain nombre de variables jouent le rôle des Q et des P. On le verra pour la gravitation, par exemple, aussi. Il y aura des multiplicateurs de Lagrange, il y a un hamiltonien qui peut être nul, et il y a des contraintes associées à ces multiplicateurs de Lagrange. Alors, comme les seules contraintes de la théorie que je considère, Dirac a vraiment fait une théorie tout à fait générale où il peut y avoir des contraintes qui n'ont pas pour origine une invariance de jauge, c'est ce qu'on appelle alors, ce sont des contraintes de deuxième classe. Mais comme ici, c'est l'invariance de jauge qui m'intéresse, je vais supposer que les seules contraintes qui apparaissent sont les contraintes liées à l'invariance de jauge. Elles sont de première classe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous calculez d'abord que le hamiltonien est invariant de jauge et que les contraintes elles-mêmes sont invariantes de jauge. Alors, puisque les contraintes engendrent les transformations de jauge, ça veut dire que si vous calculez le crochet de poisson du Hamiltonien avec les contraintes, les fonctions de contraintes g-alpha, vous allez obtenir quelque chose qui est égal à 0, éventuellement modulo les contraintes. Donc vous aurez quelque chose du style v-alpha bêta g-bêta. Telle sorte que lorsque g-bêta est égal à 0, ce crochet de poisson est nul, ça exprime l'invariance de jauge de l'énergie de l'Hamiltonien. Les contraintes, puisque g-alpha est le générateur des transformations de jauge, donc c'est une relation facile à comprendre. Pareil, les contraintes sont invariantes de jauge, donc on aura que c'est égal à 0 quand les contraintes sont égales à 0, et peut y avoir certains coefficients qui apparaissent, g gamma, donc où les v et les c sont des fonctions en général des q et des p. De telle sorte que lorsque g est égal à 0, ceci est égal à 0. Donc si vous êtes sur la surface des contraintes, définie par g alpha égal à 0, que vous faites une transformation de jauge, vous restez sur la surface des contraintes, la variation des g est nulle. D'accord ? Et de même, si le mouvement engendré par h, si vous partez de conditions initiales qui sont sur la surface des contraintes, vous allez rester sur la surface des contraintes parce que les contraintes sont préservées par l'évolution. On peut regarder ça de... Vous pouvez toujours lire un crochet de poisson comme ça ou comme ça. Ceci me dit que H est invariant de jauge, et si je le lis dans l'autre sens, donc ça c'est moins G alpha H, j'apprends aussi que les contraintes sont préservées par l'évolution. Puisque l'évolution, on prend le crochet de poisson avec le Hamiltonien, comme ça sort en variant l'action. D'accord ? Et donc c'est une propriété générale. Alors, dans notre cas, dans le cas de Chern-Simon, cette propriété-ci, elle est triviale puisque H est égal à 0. Bon, 0 avec n'importe quoi, c'est un crochet de poisson nul. Et là, je vous avais dit que les contraintes, c'était même strictement nul. Bon. En général, on aura proportionnel aux contraintes. Dans le cas de Maxwell, H n'est pas égal à 0, mais est clairement invariant de jauge, puisque E, le champ électrique et le champ magnétique sont invariants de jauge. Et donc, on aura même 0 strictement. Et à nouveau... comme les transformations de jauge sont abéliennes, les générateurs correspondants commutent, donc on a 0 ici. Vous pourriez me dire, mais on peut avoir une charge centrale, vous avez dit que les générateurs reproduisent l'algèbre à une charge centrale près, alors on aurait une incohérence parce qu'on aurait que les transformations de jauge, que sous transformation de jauge, la variation des contraintes n'est pas nulle. Donc on sait que ça doit être faiblement 0, ça on le sait, mais une constante qui est faiblement 0 est identiquement 0, si c'est une constante. Donc ça c'est la structure générale. Donc comme je l'ai dit, je ne vais pas démontrer, on verra un autre exemple qui est la gravitation, et peut-être un autre exemple tout de suite qui est Chern-Simons non-abélien, où je vais aller très vite. Si vous considérez la supergravité, qui a aussi ses propres invariances de jauge, que vous allez au formalisme hamiltonien, vous aurez la même chose. Simplement, évidemment, le contenu en champ va dépendre de la théorie, le nombre de contraintes et des multiplicateurs de Lagrange vont dépendre de la théorie, mais à tous les coups, à la fin de l'analyse, vous arrivez à quelque chose comme ça. D'accord ? Et ça peut se démontrer. Je vous donnerai une référence où c'est démontré, ou des références où c'est démontré. Ceci étant dit, je vais prendre un autre exemple, qui est Chern-Simons non-abélien, en général. Donc en fait, il y a effectivement deux types de contraintes qui ne sont pas associées à une invariance de jauge. Il y en a qui viennent de la dégénérescence du Lagrangien. Par exemple, si je prends un Lagrangien de Dirac, par exemple, qui est du premier ordre, et si je n'ai pas vu qu'il était déjà sous forme hamiltonienne en un sens, parce qu'il est déjà du premier ordre, je vais dire, j'ai calculé les moments conjugués au psi, je vais voir que les moments conjugués au psi... ça ne dépend pas des psi points, donc c'est pas inversible, mais il n'y a pas d'invariance de jauge. Donc là, il y a des contraintes qui apparaissent, et c'est des contraintes de deuxième classe, et il se fait que lorsqu'il y a des contraintes de deuxième classe, on peut s'en débarrasser en introduisant le crochet, ce qu'on appelle le crochet de Dirac, et dont l'effet net, une fois qu'on s'en sera débarrassé, c'est qu'on sera toujours avec un Lagrangien comme ça, mais peut-être que la forme cinétique n'aura pas la forme standard. On sait qu'il y a un théorème de Darboux qui permet d'arriver à la forme standard, mais peut-être que ça va être difficile de trouver les bonnes variables de Darboux. Donc ça, c'est, Ça peut être lié à une dégénérescence initiale, disons, du Lagrangien, qui implique, parce qu'il était déjà du premier ordre et qu'on ne l'a pas vu, et qu'on a quand même voulu passer au formalisme hamiltonien en introduisant de nouveaux moments conjugués alors qu'ils y étaient déjà, en un sens. Et puis quand on s'en débarrasse, on retombe sur ce qui était présent. Enfin, donc il y a une cohérence. Mais une autre raison pour laquelle on peut avoir des contraintes qui n'obéissent pas, ceci, c'est qu'il est parfois utile de fixer la jauge. Quand on a une invariance de jauge, c'est une redondance. Alors parfois c'est bien de garder cette redondance, ça permet d'avoir certaines symétries manifestes, mais parfois c'est bien de fixer la jauge. Et donc comment on va fixer la jauge? Mais géométriquement, si je regarde la surface des contraintes, elles engendrent sur la surface des contraintes, donc si je regarde les transformations engendrées par les G alpha, par les fonctions de contraintes, comme elles sont de première classe, on peut démontrer qu'elles sont intégrables, c'est-à-dire qu'elles définissent une sous-variété, en tout cas localement, qui a la codimension égale au nombre de contraintes. Et donc on va avoir une sorte de cette structure de la surface des contraintes, mais tous les points ici sont obtenus les uns à partir des autres par transformation de jauge. Donc physiquement, ils représentent la même situation. Et donc, c'est à redondance, une transformation de jauge. Quand il y a une invariance de jauge, il y a redondance. Et parfois, c'est utile d'éliminer cette redondance. Et comment on élimine cette redondance? En disant, je vais choisir sur chaque orbite un et un seul point. Donc, je vais imposer, par exemple, une condition qui me dit que je dois être sur une surface qui est transverse à ces orbites. Localement, on peut le faire. Donc, je vais imposer des conditions supplémentaires. Et ces conditions supplémentaires, par définition, on ne veut pas qu'elles soient invariantes de jauge. Parce que sinon, elles ne vont pas fixer la jauge. Bon. Donc, au fond, elles doivent être maximalement non invariantes de jauge, si je puis dire. Et donc, du coup, puisqu'elles ne sont pas invariantes de jauge, ça veut dire que leur crochet de poisson avec les contraintes ne va pas être égal à zéro, puisque c'est les contraintes qui engendrent les transformations de jauge. Et donc, on va avoir une situation qui n'est pas celle-là. Donc, soit ces contraintes de deuxième classe, donc qui n'obéissent pas à ces propriétés, elles sont là d'emblée parce que le Lagrangien était dégénéré pour une raison ou l'autre, soit on les introduit à la main, parce qu'on veut fixer la jauge, alors il faut utiliser ce qu'on appelle le crochet Dirac. Je dirais un mot à propos de ça. Comme je ne vais pas tellement fixer la jauge dans mon analyse, on va s'en tirer sans devoir fixer la jauge, je ne vais probablement pas en parler, beaucoup plus que ce genre de considération générale. Voilà. Mais donc effectivement, enfin, disons, une chose à retenir, c'est que les contraintes qui apparaissent dans le formalisme hamiltonien, dans le cas tout à fait général, elles ne sont pas toutes de première classe. Donc je considère un cas particulier où toutes les contraintes qui apparaissent sont de première classe. Il se fait que si on a des deuxièmes classes, on peut s'en débarrasser, donc à la fin il n'y a plus que les premières classes qui apparaissent, et on peut même s'en débarrasser en fixant la jauge, et donc après on vit, disons, dans cet espace des phases réduit. Oui, donc c'est important à avoir à l'esprit. Donc ça n'est pas, quand je vous présente ce qui est là, ce n'est pas le formalisme le plus général, il peut avoir des contraintes de deuxième classe. Mais on n'en rencontrera pas, donc je n'en parle pas. Bien, alors je voudrais dire quelques mots sur Chern-Simons non-abélien, mais je vais aller assez vite parce que c'est en fait, pour la structure hamiltonienne, une fois qu'on a compris le cas abélien, ça ne prend pas beaucoup de temps de comprendre le cas non-abélien. Il faut juste un peu se rappeler de ce que c'est que Chern-Simons non-abélien. Donc là je vais dire quelques mots, et c'est important que je les dise, ce n'est pas tout à fait un accident que j'en parle ici. J'en parle ici parce qu'il se fait que la gravitation à trois dimensions, la théorie d'Einstein à trois dimensions, avec constante cosmologique d'ailleurs, positive, négative ou nulle, est équivalente à une théorie de Chern-Simons. Et quand la constante cosmologique est négative, qui est le cas qui va nous intéresser, c'est une théorie de Chern-Simons basée sur le groupe SO22, qui est un groupe non abélien. Donc c'est important de savoir ce que c'est qu'une théorie de Chern-Simons non abélienne. Donc, c'est basé sur un groupe non abélien, donc sur une algèbre de Lie non abélienne. Et donc on va introduire une algèbre de Lie, et je vais considérer que les algèbres de Lie qui apparaissent ici sont des algèbres de Lie matricielles. Bon, on peut toujours les réaliser comme ça, mais donc je vais d'emblée prendre des matrices. Et donc je vais avoir un certain nombre de générateurs d'une algèbre de Lie que j'appelle T, avec, et donc dont le commutateur, donc là c'est un commutateur cette fois-ci, c'est pour ça que c'est parfois mieux d'avoir une autre notation pour le crochet de poisson, mais je pense qu'il n'y a pas de confusion qui peut apparaître. Donc le commutateur, puisque c'est une algèbre de Lie, Le deux générateurs de l'algèbre de Lie, c'est une combinaison linéaire des générateurs avec des coefficients qu'on appelle les constantes de structure de l'algèbre de Lie et qui obéissent à un certain nombre de propriétés. D'abord, c'est antisymétrique puisque le commutateur est antisymétrique. Ça obéit aussi à l'identité de Jacobi, qui est une identité quadratique en les constantes de structure parce que le commutateur obéit à l'identité de Jacobi. Donc là, s'il y a des questions là-dessus, vous me les posez, mais je vais supposer que c'est plus ou moins connu. Donc je vais avoir une algèbre de Lie de matrice. Et je vais supposer que l'algèbre de Lie correspondante est simple ou semi-simple, ce qui me garantit que cette forme bilinéaire invariante est en fait non dégénérée. Donc je vais l'appeler GAB quand j'utilise des indices. Et donc il y a une algèbre de Lie et on va considérer une connexion à valeur dans cette algèbre de Lie. Donc pratiquement ça veut dire quoi? Je vais considérer un A lambda, une connexion, qui généralise la connexion du Chern-Simons abélien qu'on a vu, en ce sens qu'au lieu d'être un nombre, ici ça va être une matrice TA, donc ça va être A lambda A TA. Et je vais utiliser les deux notations. Donc parfois j'écrirai tous les indices, comme ici, mais parfois je n'écrirai pas l'indice d'algèbre de Lie, et donc c'est réellement des matrices. Donc si c'est des matrices, ça veut dire que ça ne commute pas nécessairement. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que l'action de Chern-Simons? Donc, D3X trace de, alors je vais l'écrire comme ça, là par contre j'utilise pas la notation de forme sur l'espace-temps parce que sinon on aura trop de dérivées extérieures. Et donc ça c'est vraiment, il y aura un epsilon de la dérivée extérieure sur l'espace-temps, donc le DA horizontal. Donc il y a une trace de matrice, donc c'est un nombre, epsilon lambda mu rho. Donc ça c'est l'action de Chern-Simons pour une théorie de Chern-Simons non abélienne basée sur l'algèbre de Lie ici. Donc ce sont des matrices, si on prend la trace de matrice, donc ça pose pas de problème. Alors ça peut un peu, c'est une action qui peut paraître un peu bizarre parce qu'elle fait apparaître A tout seul, mais on peut montrer qu'elle est invariante pour les transformations suivantes. Je vais écrire les transformations infinitésimales, donc où je transforme la connexion par la dérivée covariante. Donc epsilon, c'est epsilon A TA, où les epsilon A dépendent de X de manière arbitraire. Et donc ça, par définition, donc la dérivée covariante, c'est la dérivée ordinaire plus le terme qui fait apparaître la connexion. Et donc comme tout est ici dans la représentation adjointe, c'est par le commutateur que les choses agissent. Voilà, donc exercice que je ne vais pas faire. Vérifier que cette action-ci est invariante à un terme de bord près. Mais si epsilon est égal à 0 au bord, elle est même strictement invariante sous ces transformations. D'accord, donc c'est un peu plus compliqué. Quand c'est abélien, il y avait vraiment que ce terme-là, il y avait ce terme-là. Donc, pour la partie abélienne, c'est évident, mais il y a des termes en plus, il faut vérifier que l'ensemble est bien invariant pour ça. D'accord ? Donc je pensais le faire ici au tableau, mais alors donc ça c'est un peu standard, et si vous avez des problèmes, vous pouvez m'en parler. Alors si vous calculez les équations du mouvement, exercice aussi, vous allez obtenir que la courbure, que les courbures, donc la courbure, donc ça c'est à valeur dans l'algèbre de Lie, alors là j'ai été trop vite, f mu nu, vous allez obtenir comme équation du mouvement, donc si vous extrémisez l'action, donc ça c'est l'action de Chern-Simons par rapport à ceci, aux composantes de la connexion, vous allez obtenir comme équation, eh bien que f mu nu, qui est défini comme étant d mu à nu moins d nu à mu plus à mu à nu, bon, ce sont des matrices, donc ça, c'est un commutateur en général non nul, est égal à 0. En fait, l'équation qu'on obtient, c'est pas à strictement parler ça, mais c'est ça multiplié par epsilon lambda mu rho. Et puis, comme il y a des traces, on a aussi la matrice GAB qui apparaît. Mais elle est inversible, cette matrice GAB. Et le epsilon, on peut s'en débarrasser en multipliant par un autre epsilon. Et donc, on arrive finalement à ces équations-ci. Ça, c'est les équations du mouvement. Équation du mouvement. Donc, les équations variationnelles. Donc, ils me disent que la courbure associée à cette connexion est nulle. Et donc, comme pour Maxwell, je n'en ai pas tellement insisté là-dessus, mais donc, si la courbure est nulle, ça veut dire que localement, la connexion est équivalente à la connexion nulle. Donc, c'est la connexion nulle modulo une transformation de jauge. Bien, donc ça, c'est une autre théorie qui possède une invariance de jauge. Donc, à nouveau, on a les caractéristiques, lorsqu'on passe au formalisme hamiltonien, du formalisme hamiltonien d'une théorie avec invariance de jauge. Et si je passe au formalisme hamiltonien dans ce cas-ci, ben c'est presque comme, je vais écrire tout de suite la réponse, l'action hamiltonienne. Ben à nouveau, on voit bien qu'il n'y a pas de dérivée temporelle de A0, parce que si j'ai un 0 ici, mu ne peut pas être égal à 0 à cause du epsilon, donc il n'y a pas de D0 à 0. Donc à nouveau, A0 joue le rôle d'un multiplicateur de Lagrange. Par contre, il y aura des dérivées temporelles. Donc si mu est égal à 0, j'ai toutes les composantes spatiales. Donc à nouveau, j'aurai les composantes spatiales de AI. Là, je vais mettre les indices pour mettre les variables. Et puis, j'aurai les A0. Je les sépare parce que ça, c'est l'espace des phases. C'est ce qui définit l'espace des phases. Et ça, c'est les multiplicateurs de Lagrange. Et donc, on va obtenir un terme. Eh bien, la partie cinétique, vous voyez que la partie cinétique, elle est comme dans le cas abélien. Donc, on va obtenir la même partie cinétique que dans le cas abélien. Donc, on va obtenir la trace. Mais alors, on va peut-être l'écrire donc, dt, l'intégrale d2x. Donc la trace, elle fait apparaître GAB, donc on va avoir GAB, donc c'est une matrice, c'est des nombres, hein. A, donc il faut juste décorer le cas abélien pour cette partie-ci, D0 à 1B, et saturer les indices avec, avec ce qui est là pour saturer, de G ici, ben ça vient, enfin, c'est clair, on le comprend, hein, c'est la trace. Et alors il y a probablement un facteur, on l'avait deux fois, hein, donc c'est k sur 2π. Et puis on a le terme des contraintes, je peux mettre même le GAB ici, qui est à nouveau, donc c'était F12B. Ou cette fois-ci, si vous faites le calcul, vous verrez que tout, vous verrez apparaître, mais le terme avec un A0 ici peut être multiplié par le commutateur des deux A, et donc ça fait apparaître la courbure non abélienne. Donc le F12 étant à nouveau, je pourrais écrire les choses de manière covariante d'espace, hein, avec epsilon ij. Je l'écris comme ça parce que c'est intéressant d'avoir R et phi quand on étudie les choses où il y a un bord, avec phi étant la coordonnée du bord, sur le cercle du bord, donc D1 à B2, pardon, moins D2 à 1B, plus le commutateur, donc ça va me donner FABC, je suppose, oui, FB, oui, c'est D. AC1 AD2. C'est juste le développement en composante de cette matrice. Et donc on voit que c'est ça qui apparaît. Donc je vous laisse vérifier comme exercice, mais à nouveau, ce n'est pas très compliqué. Hein. Il faut aller regarder où est A0, où sont les dérivées temporelles, ça c'est facile. Quand mu est égal à 0, ça va donner ce terme-ci. Donc ça c'est comme quand, dans le cas abélien, simplement il y a une décoration, mais on prend la trace, donc c'est ce qui donne le GAB. Alors la partie où A0, le 0 est ailleurs, Donc il faudra faire des intégrations par partie. On va avoir une partie linéaire qui va être ceci, comme dans le cas abélien. Mais on a une partie qui est non linéaire, et donc il y a un zéro ici. Mais vous pouvez voir que ça apparaît le bon nombre de fois pour avoir le bon coefficient, pour avoir exactement ceci. Et le commutateur apparaît aussi parce qu'il y a un epsilon. Ça va ? Donc là, je vous laisse faire comme exercice. Mais alors, ce que je prétends maintenant, c'est que le générateur des transformations de jauge, alors les transformations de jauge, maintenant, il y en a plusieurs, hein, elles sont paramétrisées par plusieurs fonctions de x. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder la contrainte. Donc, en fait, si ce que je vous ai dit est juste, il doit être vrai que cette expression-ci, non pas d2x, d2x de epsilon a f b 1 2, donc on va l'appeler ça q de epsilon a. Hein? Donc je prends la contrainte multipliée par paramètre arbitraire. Il doit être vrai que ce terme engendre les transformations de jauge. Les transformations de jauge, c'est la partie abélienne, elle est sous contrôle parce qu'on la vérifie explicitement, mais aussi la partie non abélienne. Et à nouveau, je vous laisse faire comme exercice que, en tout cas, si epsilon est nul, au bord, hein, les problèmes de bord, c'est les mêmes que dans, c'est même un peu plus compliqué, mais disons, si epsilon est nul au bord, ils n'apparaissent pas. Donc, si epsilon est nul au bord, Q de epsilon est un bon générateur, on peut lui associer un champ de vecteur dans l'espace des phases, et ce champ de vecteur, c'est bien la dérivée. Donc, si on calcule le crochet de poisson de A, disons A, pardon, AI de X avec Q de epsilon. Hein, donc, ce qui revient à faire le calcul que je vous ai indiqué la fois passée, eh bien, vous allez obtenir la dérivée covariante de epsilon A. Pour autant qu'epsilon soit nul au bord. Si epsilon n'est pas nul au bord, il faut ajouter un terme de surface et on aura toujours ça. Mais il faut ajouter le terme de surface. D'accord. Et la discussion procède comme dans le cas abélien. Donc une fois qu'on a compris le cas abélien, il y a un petit peu d'algèbre. Il faut voir qu'effectivement les termes qui manquent pour la dérivée covariante viennent d'ici. Mais on sait par exemple que A1 est conjugué à A2. Donc quand vous allez calculer le crochet de poisson de A1 avec cette expression-ci, A1 va voir A2, va le remplacer par epsilon. C'est précisément ce qu'il faut pour compléter la dérivée covariante, hein, pour avoir ce terme-ci. D'accord ? Donc à nouveau, je vous laisse faire ça comme exercice, parce que je voudrais passer à autre chose maintenant. Si vous avez une des difficultés, la semaine prochaine, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Mais en fin de compte, on voit à nouveau que les contraintes engendrent les transformations de jauge. Et comme ces transformations de jauge sont non abéliennes, les générateurs de ces transformations de jauge vont avoir un crochet de poisson qui, cette fois-ci, n'est plus identiquement nul, mais va reproduire l'algèbre du groupe. Donc si vous calculez le crochet de poisson de ces contraintes, donc ici c'est ça qui est égal à zéro, hein, donc FA avec FB, eh bien vous allez obtenir les contraintes, mais avec les constantes de structure de l'algèbre de Lie. Et donc, c'est un exemple qui est, disons, un peu plus riche de ce point de vue-là que le cas abélien, puisqu'on aura ici, mais peut-être que personne ne voit cette ligne. Si, il y a ça qui est dans le chemin, j'espère que... En tout cas, on aura que l'algèbre des contraintes est non nulle. Donc, on va obtenir quelque chose comme... Donc, si j'appelle ça... A, en fait, donc GA, c'est GAB fois FB 1, 2. On obtiendra que GA de X, bon, formellement, j'écris ça comme ça, mais ça cache les problèmes de bord, cette manière d'écrire les choses. Ça va être, alors c'est aussi une près, c'est probablement moins, FABC, GC, delta de X moins Y. C'est une manière d'extraire... Normalement, c'est des choses intégrées qui sont bien définies avec des epsilon qui sont nuls au bord. Mais si vous enlevez les epsilon, vous obtiendrez quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le crochet de poisson des contraintes est nul en vertu des contraintes, mais il faut utiliser les contraintes. En fait, ça reproduit l'algèbre de Lie du groupe qui est à la base de Chan-Simons. Donc à nouveau, je vous laisse faire ça comme exercice. Et maintenant, je voudrais dire des choses sur, en général, sur ce qu'on appelle symétrie asymptotique et la distinction qu'il faut faire entre ce qu'on appelle les transformations de jauge propres et transformations de jauge impropres, qui est basée sur les termes de surface. Et donc j'ai utilisé une terminologie générale, mais on a un exemple déjà très clair, c'est Chan-Simons. On a vu que dans Chan-Simons, certaines des transformations de jauge ne sont pas engendrées juste par les contraintes, il faut ajouter un terme de surface, quand le paramètre de jauge n'est pas nul au bord. Certaines des transformations de jauge sont nulles en vertu des contraintes quand le paramètre epsilon est nul au bord. Et donc ça, c'est important de bien comprendre les implications de ça. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est en parler. Je vais peut-être effacer des formules entières, sinon c'est faux. Alors, donc on va s'intéresser, après tout c'est dans le contexte où on étudie les symétries asymptotiques, c'est naturel, au cas de théorie des champs qui sont, disons, pas définis dans un espace fermé, mais qui sont définis par exemple dans R3 ou dans R2 ou dans Rn, et il y a donc, ou sur le disque, dans Carl Chan-Simons, donc définis dans un domaine qui possède des bords. Et on a vu qu'alors, dans ce cas-là, il faut faire attention parce qu'il y a des intégrations par partie qu'on fait et il y a des termes de bord qui peuvent ne pas être nuls et qui ont une signification physique importante et intéressante. Et je vais maintenant développer ce point. Donc je vais introduire la notion de transformation de jauge. Donc c'est probablement le point suivant, donc c'est 5. Transformation de jauge propre, donc il y avait un S ici au bout, et ou impropre, et symétrie asymptotique. Et peut-être, c'est un peu bizarre de commencer comme ça, mais je vais le faire comme ça quand même, pour motiver un peu les considérations que je vais développer maintenant. Je vais suivre ce que Dirac, en fait, lorsqu'il a développé sa théorie. Bon, Dirac était intéressé par la quantification de cette théorie. Et Dirac était quelqu'un qui quantifiait principalement en partant de l'hamiltonien. Donc c'est pour ça qu'il voulait construire le hamiltonien, parce qu'alors il y a des Q et des P, il y a des relations de commutation qu'on connaît. Donc il a vu, il y a des contraintes en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire des contraintes dans la théorie quantique? La réponse de Dirac, c'est les états. Donc dans la théorie quantique, quand on réalise les Q et les P, tous les Q et les P, il y a une redondance, les Q et les P ne sont pas invariants de jauge, mais la physique doit être invariante de jauge. Et comme les générateurs des transformations de jauge, c'est les contraintes, Dirac a dit la bonne manière de tenir compte des contraintes dans la théorie quantique, c'est d'imposer que les états physiquement accessibles, donc ce qu'il appelle les états physiques, soient invariants sous les transformations de jauge, c'est-à-dire annihilés par les contraintes. Et donc, en utilisant la notation braquette de Dirac, les contraintes qui sont des fonctions de Q et de P vont devenir des opérateurs. Alors je vais mettre un chapeau, mais ça va être assez formel ce que je vais faire. Et ce que Dirac demande, c'est que les états physiques qu'on peut réaliser, donc ce qu'il appelle l'espace des états physiques, donc les états physiques, soient annihilés par les contraintes. Pourquoi cette condition? Comme les contraintes, ça veut réellement dire que les états doivent être invariants de jauge, puisque les contraintes engendrent les transformations de jauge. Alors évidemment, c'est assez formel ceci, parce qu'il faut définir l'opérateur correspondant, il y a des problèmes d'ordre, il y a des tas de problèmes compliqués de mécanique quantique, comme en plus si c'est la théorie quantique des champs, c'est deux fois plus compliqué, il y a une difficulté supplémentaire, mais ça c'est les difficultés traditionnelles du formalisme quantique, mais il faut que ces contraintes soient cohérentes. En tant qu'équation opérationnelle. Ici, elles étaient cohérentes en ce sens que si vous partez si les contraintes sont satisfaites et que vous faites une transformation de jauge, elles seront toujours satisfaites. Donc on peut se poser la question ici, si j'ai une solution de ça et que je fais une transformation de jauge, est-ce que je vais toujours avoir une solution de ça? Donc est-ce que ça va être cohérent d'imposer ces conditions? Et donc Dirac observe que si la condition de première classe est aussi satisfaite au niveau quantique, on va donc si vous multipliez maintenant par G bêta, G alpha, et vous calculez ça, il vaut mieux avoir zéro. Mais pour ça, il faut voir ce que vaut le commutateur. Mais il dit, ah, mais si j'arrive à résoudre le problème d'ordre de sorte que la propriété de première classe est toujours satisfaite, c'est-à-dire que ceci va être un certain opérateur peut-être, dans les cas les plus compliqués, fois la contrainte gamma, et ça peut être... Alors, ceci va être automatiquement une conséquence de ça. Et donc, si la propriété de première classe est satisfaite au niveau quantique, c'est cohérent. Bon. Je ne vais pas développer la théorie quantique maintenant, mais je vais juste vous dire donc, que là, ce que demande Dirac, c'est que les contraintes agissant sur les états physiques donnent zéro. Bon. Maintenant, je reviens à la théorie classique. Quand je vous ai dit que Alors, on a vu que les transformations de jauge, en général, c'était, donc, si je regarde la structure de l'action hamiltonienne ici, c'était engendré par les contraintes, donc mes générateurs G des transformations de jauge, ça va être une intégrale, en général, sur je mets D, puisque D peut valoir 2, 3, ou peut-être même différent, de X, fois mes paramètres de jauge, qui vont dépendre en général de x, fois les contraintes. En fait, ils peuvent dépendre de n'importe quoi, même plus de x et des champs, en fait. Hein, donc, je n'écris peut-être pas la dépendance, sinon on risquerait de croire que c'est limitatif. Donc, epsilon a est quelconque, pour autant qu'il soit nul au bord. Mais en général, si epsilon a n'est pas nul au bord, il y aura des termes de surface. Et donc ça veut dire que si ces termes de surface seront présents, comment ils apparaissent techniquement, c'est que quand on calcule le champ de vecteurs associé à G, il y a des intégrations par partie à faire, comme on a vu, et ces intégrations par partie font apparaître epsilon, bien sûr, et donc si epsilon n'est pas nul au bord, ou si, bon, ça, si c'est à la sphère à l'infini, ce sera plutôt des conditions de décroissance qui vont apparaître, donc on verra des exemples, mais donc ces termes de surface ne seront pas nuls lorsque epsilon A ne tend pas vers 0 au bord, par contre ils seront nuls lorsque epsilon A est égal à 0 et peut-être suffisamment vite, en tout cas dans le cas d'un volume infini, et donc ils seront absents. Alors maintenant je reviens à ce que Dirac nous dit. Dirac nous dit que les états physiques sont annihilés par les contraintes. Donc si, supposons que je passe à la théorie quantique, que j'agis avec le générateur des transformations de jauge, je vais obtenir quelque chose qui agit sur mes états physiques plus le terme de surface, appelons-le, donnons-lui un nom, B de epsilon. Et fois psi. Et donc, si les états physiques sont annihilés par les contraintes, le premier terme s'en va. Mais le deuxième terme ne doit pas être nul. Donc, il n'y a aucune raison d'imposer que les états soient invariants sous les transformations de jauge dont le générateur n'est pas nul. Si le générateur est nul, les états physiques seront invariants, ben, parce que Dirac nous dit, et donc, effectivement, annihilés par cela. Mais si le terme de surface n'est pas nul, eh bien, ça aura une action non triviale sur les états physiques. Et donc, pour cette raison, on va appeler les transformations de jauge caractérisées par un terme de surface non nul des transformations de jauge impropres, en ce sens que, comme elles ont une action non triviale sur les états physiques, ça veut dire qu'on ne fait pas le quotient par ces transformations-là. Donc, pour définir l'espace des observables, physiquement observables, on doit juste quotienter, on doit imposer par les transformations de jauge engendrées par un générateur qui ne contient que les contraintes. Alors ces transformations de jauge-là, on les appelle transformations de jauge propres. Parce que c'est vraiment des transformations de jauge qui impliquent une vraie redondance et donc qu'on peut fixer de jauge complètement, par exemple. Par contre, les transformations de jauge dont le générateur n'est pas nul, même en vertu des contraintes, donc il n'est pas nul en vertu des contraintes, ces transformations de jauge, c'est réellement des transformations de jauge impropres qui ont une action non triviale sur les états physiques, et si par exemple elles forment un groupe, les états physiques vont former des représentations non triviales de ces transformations de jauge impropres. On va voir un exemple avec John Simons, mais ici je préfère d'abord parler de la théorie générale. Alors là, le problème est, qu'est-ce que ça veut dire laisser complètement l'action invariante? Parce que l'action, en général, on la construit à partir des équations du mouvement, mais les équations du mouvement ne déterminent l'action qu'à un terme de bord près. Et donc, selon que vous preniez tel terme de bord, ou tel terme de bord, ou tel terme de bord, peut-être que vous arriverez à des conclusions différentes. Donc moi, je préfère prendre cette définition-ci, qui, elle, résiste à toute redéfinition de l'action par des termes de ce type-là. En fait, les termes de bord dans l'action vont dépendre des conditions asymptotiques, on va voir ça. Mais sinon, ceci, c'est une définition, disons, qui est plus robuste, parce que qui me dit que l'action de Chan-Simon, c'est ça? Parfois, les gens préfèrent l'écrire d'une autre manière, ou parfois, on ajoute un terme. Parfois, par exemple, l'action d'Einstein-Hilbert, parfois, on l'écrit comme R racine de moins G, parfois, on aime bien la forme du premier ordre gamma-gamma moins gamma-gamma, parfois d'autres personnes vont écrire sous forme John Simons. Et donc chaque fois, il y a des termes au bord différents, et donc les conclusions seraient différentes si vous appliquiez strictement ce principe. Par contre, dans tous les cas, quand vous calculez les contraintes, les générateurs et leurs valeurs, soit c'est nul, soit c'est pas nul. Oui, alors vous pourriez dire, oui, après tout, imposons tout, y compris même que ceci, les termes de surface, annihilent les transformations de jauge. Si vous faites ça pour la gravitation, par exemple, vous allez voir que dans les termes, donc l'énergie, par exemple, c'est le générateur des translations dans le temps. Mais les translations dans le temps, c'est un diffeomorphisme. Bon. Donc si vous imposez que vos états soient invariants strictement sous tous les diffeomorphismes, y compris ceux qui asymptotiquement tendent vers une translation dans le temps, vous allez imposer que l'énergie de tous les états physiques est égale à zéro. Hein, vous allez imposer que vous avez la même chose pour tous les générateurs du groupe de Poincaré. Vous allez dire les seules représentations du groupe de Poincaré qu'on a le droit de considérer, c'est la représentation triviale. Et ça, vous n'avez pas envie de faire. Donc il y a de bonnes raisons physiques. Mais si on ne le fait pas pour la gravitation, il ne faut pas le faire pour les autres théories de jauge non plus. Et c'est intéressant. Et on va voir des représentations. Donc ça veut dire la chose suivante, c'est que pour cette partie-ci, on doit avoir une représentation triviale. On doit avoir zéro, ça doit être annihilé, donc c'est toujours une représentation triviale. Mais dès qu'on a les termes de surface, on peut autoriser une représentation non triviale. Et en fait, je voudrais d'abord dire encore deux, trois choses ici, et puis regarder de nouveau explicitement l'exemple de Chan-Simon sur le disque, qui est c'est super simple, mais en même temps, ça contient toutes les idées. Donc c'est pour ça que je passe du temps à ça. Alors, ce que je voulais dire, oui, c'est la chose suivante. Donc, vous voyez que en général, les générateurs sont comme ça. Et on pourrait se poser la question, quelle est l'algèbre de ces générateurs lorsqu'on introduit les termes de surface? Donc, si je prends G de epsilon A, G de epsilon B, je calcule le crochet de Poisson. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, à nouveau, la manière dont le crochet de Poisson est défini, vous savez que ceci, c'est la variation de ce générateur-là sous la transformation engendrée par ce générateur. Donc, on peut écrire ça comme delta. Peut-être que je vais donner un autre nom. Oui, sinon on croirait que c'est deux fois le même et ça fait zéro. Mais, donc je prends un paramètre, je prends un autre paramètre. Donc ça c'est la variation sous la transformation de paramètre état de G de epsilon A. Et donc il va y avoir deux termes à calculer, la variation du terme de volume plus la variation, j'avais écrit ça comme la dérivée de l'i sous le vecteur infinitésimal, sous le champ de vecteur associé à ça, mais c'est la même chose que la variation, hein, du terme de surface. Je vais écrire ça comme ça. Terme de surface, hein, ce n'est pas la surface qui varie. Bon, alors, la variation ici, ça va être la variation des contraintes. Bon, il pourrait se faire que l'epsilon dépende des champs, mais ce sera proportionnel aux contraintes. Si je varie ceci, j'obtiens un terme proportionnel aux contraintes. Et puis, je vais avoir la variation des contraintes. Mais la variation des contraintes, comme elles sont de première classe, c'est proportionnel aux contraintes. Donc, ceci, ça va être un terme, je vais l'écrire comme ça, qui est faiblement nul. Donc, à nouveau, ça va avoir la forme d'une intégrale de volume d'un certain coefficient, appelons-le mu, qui va dépendre de epsilon et de eta, je ne vais pas savoir, mais GA. L'important, c'est que c'est proportionnel aux contraintes. Plus, ben, la variation d'un terme de surface, vous êtes à la surface, vous variez ce qui est à la surface, c'est aussi un terme de surface. En d'autres termes, oui, vous pouvez aussi montrer que si G est bien défini comme générateur, c'est-à-dire un champ de vecteurs qui lui est associé hamiltonien, bien défini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, qu'on a ajusté le terme de surface pour qu'il n'y ait pas de problème. Si on a bien ajusté le terme de surface ici aussi pour qu'il n'y ait pas de problème, vous pouvez démontrer que le crochet de Poisson aura un terme de surface bien ajusté aussi, qu'il n'y aura pas de problème avec le terme de surface. Donc le terme de surface qui est là, c'est le terme de surface qu'il faut pour que ceci soit un générateur bien défini. Mais donc, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est que le crochet de Poisson de deux générateurs de symétrie de transformation de jauge impropre ou propre est une transformation de jauge propre ou impropre. Donc ça c'est fermé. Et vous voyez aussi que si, par exemple, G était une transformation de jauge propre, c'est-à-dire si si epsilon A est nul au bord, de telle sorte que G de epsilon engendre une transformation de jauge propre, donc pas de terme de surface, ben, s'il n'y a pas de terme de surface, la variation de pas de terme de surface, c'est pas de terme de surface. Ici, vous n'obtiendrez pas de terme de surface. En d'autres termes, le crochet de Poisson du générateur d'une symétrie de jauge propre avec une symétrie de jauge propre ou impropre, c'est une symétrie de jauge propre. S'il n'y a pas de terme de surface quand vous calculez la variation, ben, je vous ai dit, là, ici on calcule la variation des G et c'est des G, donc ceci va être quelque chose qui est nul en vertu des contraintes. Donc quand on applique les contraintes, je reste sans rien. Et donc ceci va être le générateur d'une transformation de jauge propre. Donc la propriété des transformations de jauge propre, c'est qu'elles forment un idéal. Si je regarde l'algèbre sous le crochet de Poisson des générateurs correspondants, je vois que d'abord, c'est bien fermé sous le crochet de Poisson, c'est ce qu'on vient de voir, mais en plus, propre avec propre ou impropre, c'est propre, si je puis dire. Ce qui veut dire la chose suivante, c'est qu'algébriquement, c'est cohérent de prendre le quotient. Vous savez que quand vous avez une algèbre de Li, pour l'algèbre de Li quotient existe, mais quand ce dont par quoi on prend le quotient est un idéal. Mais ici, c'est un idéal, je viens de le vérifier. Posez des questions si je vais un peu vite. Hein. Mais donc, on a un idéal, donc on peut prendre le quotient. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le quotient? Ça veut dire que vous identifiez deux générateurs qui diffèrent par un terme proportionnel aux contraintes. Donc, ça veut dire que, en fait, vous ne retenez que la partie de bord ou asymptotique si on est dans un espace où le bord, c'est l'infini. Donc, ça veut dire que deux générateurs, une fois qu'on a pris le quotient. En fait, prendre le quotient, c'est ce que Dirac nous dit. Il faut imposer des contraintes. Prendre le quotient, ça veut dire que vous identifiez deux générateurs qui ont le même comportement asymptotique, mais qui diffèrent éventuellement à l'intérieur. S'ils diffèrent à l'intérieur, ça n'a pas d'importance, parce qu'ils vont différer par une transformation qui est précisément dans l'idéal. Parce que la différence va être une transformation de jauge propre. Hein, s'ils ont le même comportement asymptotique, quand vous faites la différence, ben, le comportement asymptotique sera zéro de la différence. Et donc, ce qui va rester, c'est uniquement le terme de volume proportionnel aux contraintes. Et quand vous prenez le quotient par ça, eh ben, ça, il ne reste plus rien. Ça vous, donc, en d'autres termes, quand vous faites le quotient, la seule chose qui compte, c'est le comportement au bord ou le comportement asymptotique. Pour cette raison, les symétries obtenues en prenant le quotient, dont le comportement est entièrement déterminé par le comportement au bord, ou à l'infini si c'est dans un espace, si c'est R3 par exemple, hein, s'appellent les symétries asymptotiques. Parce que la seule chose qui compte, c'est comment elles se comportent à l'infini ou au bord. La manière dont elles se comportent à l'intérieur, peu importe, je vous donne le comportement au bord, vous pouvez prolonger à l'intérieur comme vous voulez, quelqu'un d'autre prolonge d'une autre manière, la différence va être une transformation de jauge propre par laquelle on prend le quotient, donc la différence est irrelevante. D'accord ? Donc on a cette structure générale tout le temps. Je vais l'illustrer maintenant sur Chan Simons. Et là, peut-être, comme ce sera un exemple concret, peut-être qu'on peut mieux voir comment ça se passe et poser des questions éventuellement. Mais donc, une leçon qu'il faut retenir, c'est que on est parfois un peu vague dans l'utilisation du terme transformation de jauge. Donc on dit une transformation de jauge, pour un mu, c'est un mu égale des mu epsilon. Et on dit il faut quotienter, c'est une redondance, et il faut quotienter par toutes les transformations de jauge. Ce n'est pas tout à fait vrai, il faut quotienter uniquement par les transformations de jauge propres, c'est-à-dire où epsilon, quand il y a un bord, ou une région asymptotique, se comporte tend vers zéro. Il faut regarder comment ça doit tendre vers zéro, mais celle pour lesquels epsilon ne tend pas vers zéro, peuvent avoir une action physique non triviale sur les états. Si, si, donc justement, c'est pour ça, il peut y avoir des cas. Mais par exemple, on a vu un cas, Chern-Simons, sur le disque, si epsilon tend vers une constante, s'il se réduit au mode zéro, on a vu que comme l'anomie est égale à zéro, la charge correspondante est égale à zéro, et donc c'est ici. Et donc quand je dis non nul, ça doit être non nul pour tous les états qui définissent l'espace des phases, ce qui est bien le cas pour ce mode zéro. Donc ça peut arriver. Effectivement. Et la règle, en tout cas celle qui, à ma connaissance, est toujours valable, c'est réellement de regarder la valeur du terme de surface. S'il est nul, c'est... et donc quand je dis tend vers zéro, c'est au sens où la charge... En fait, c'est ça, le critère. Quand est-ce que je vais considérer qu'epsilon tend vers zéro? C'est quand la charge correspondante est nulle. En général, ça correspond vraiment à une décroissance, mais ça peut être plus subtil comme dans ce cas-là. Effectivement. Je pense que je voulais encore dire quelque chose de général. Bon, ça me reviendra. Oui, alors, une fois que vous avez pris le quotient, vous pouvez prendre... c'est intéressant de voir l'algèbre, puisque prendre le quotient, c'est algébriquement compatible avec la structure de crochet. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un idéal. Donc, on pourra parler du crochet induit dans le quotient, donc des symétries asymptotiques, ou des générateurs des symétries asymptotiques, donc obtenus en faisant ce quotient. Et ce qu'on sait, c'est que ça va être une autre symétrie asymptotique, donc ça va former une algèbre, mais cette algèbre n'est pas nécessairement linéaire. On verra des exemples, j'espère qu'on aura le temps d'en voir. Donc on va pouvoir voir que, par exemple, le crochet de poisson de deux symétries impropres va être une symétrie impropre, mais la valeur asymptotique va être une fonction non linéaire des paramètres, ça peut arriver. On va voir ce que ça veut dire. Bon, peut-être ici c'est un peu abstrait. Il peut aussi avoir une charge centrale qui apparaît, comme on l'a noté, puisqu'il y a toujours cette ambiguïté de constante dans la définition des générateurs. Dire quelque chose d'autre, mais je ne vois plus, ça reviendra. Il me semble que je voulais dire quelque chose d'autre. On va regarder Chern-Simons, je suis sûr que ça reviendra quand je parle de Chern-Simons. Il me semble que j'ai dit tout ce qui était dans mes notes, donc je ne vais peut-être pas dire quelque chose d'autre. Oui, non. Voilà, j'ai dit ce qu'il fallait. Donc, revenons maintenant... Ah oui, non, je voulais définir un concept en général avant de voir. Observable. Qu'est-ce que c'est qu'une observable? Une observable, c'est une quantité qui est invariante sous les transformations de jauge propres. Elle ne doit pas être nécessairement invariante sous les transformations de jauge impropres. Elle va peut-être se transformer et former une représentation non triviale de cette transformation de jauge impropre. Alors... ceci veut dire que ça n'est pas invariant strictement sous toutes les transformations de jauge propres et impropres. Donc Donc, par exemple, pour revenir à l'électromagnétisme ou à John Simons, et ça, ça va dépendre du contexte, on ne demande pas aux observables d'être invariantes sous toutes ces transformations de jauge, quel que soit epsilon. Et donc, en particulier, ça veut dire qu'il y aura d'autres observables que les fonctions des champs, des mu. Donc, parmi les observables, il y aura des observables qui ne sont pas juste des fonctions de f mu, parce que les f mu ont la propriété d'être invariants sous toutes les transformations de jauge, que epsilon soit nul ou pas à l'infini. Donc c'est plus qu'être observable, c'est aussi dans des transformations triviales de transformations de jauge impropres. Par exemple, dans le cas de l'électromagnétisme. Donc on va avoir un exemple là-dessus. Et donc, on va avoir pour Chan Simons des observables qui ne dépendent pas de f mu nu, et vaut mieux d'ailleurs parce que f mu nu est égal à zéro d'après les équations du mouvement. Donc il y a autre chose que f mu nu. Bon, alors ceci étant dit, je reviens à Chern-Simons. C'était la remarque que je voulais faire. Et donc on va prendre le Chern-Simons abélien sur le disque. Donc on a déjà toutes les formules. On a même les générateurs. On va calculer leur algèbre pour commencer. Donc on a vu que le générateur des transformations de jauge, alors j'espère que j'ai ça sous la main, je n'ai plus ça sous la main, mais vous l'avez, je l'ai écrit tout à l'heure, donc je dois retrouver mes feuilles. Donc on a vu que le générateur des transformations de jauge propre et impropre, c'était moins k sur 2π, l'intégrale d2x, dr dφ, soyons explicites, de epsilon f1,2, donc frφ. Et alors, partie intéressante en fait pour les transformations de jauge impropres, moins, alors ça devenait plus je pense, puisqu'il faut l'ajouter, parce qu'il va venir de là. Donc, peut-être j'ai fait une faute de signe ici, éventuellement vous me corrigez si ça ne correspond pas. Et donc c'est epsilon en R égale à, donc ça c'est R égale à R1, et on a ce disque, hein, donc ça c'est R égale à R1, donc ça c'est R, et ça c'est phi. Et donc ça c'est A phi en R égale à au bord, hein, tout est pris au bord, hein, en R égale à R1, mais ça dépend de phi, donc voilà. Et on a aussi la condition qu'on a vue, que l'intégrale sur toute courbe fermée, mais en particulier pour R égale à R1, dφ de A phi était égal à 0. Alors, vous voyez, quand la contrainte s'annule, quand les contraintes sont nulles, ceci disparaît, et donc G se réduit au terme au bord, et donc ce qui va décider de savoir si une transformation de jauge est propre ou impropre, c'est, en général, si Aφ est quelconque au bord, à part juste limité par cette condition, tous les epsilon définissent non nuls au bord, définissent des transformations de jauge impropres, sauf le mode 0. Alors, première chose qu'on a envie de calculer, c'est le crochet de Poisson. Ah, je vois que j'avais appelé ça Q. Donc réappelons ça Q. Enfin, parfois je dis G, parfois Q. Alors on a envie de calculer l'algèbre. Donc on va prendre le crochet de Poisson d'un Q paramétrisé par epsilon par un Q paramétrisé par état. Et donc ça, on sait que par définition, si vous êtes gêné par... le pupitre, dites-le moi et j'écris ailleurs, hein, mais je n'ai pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans l'angle mort ou. Si vous ne voyez pas, vous me le dites, hein. Enfin, et que vous avez envie de me le dire, vous n'hésitez pas à me le dire plutôt. Donc, ça, on a vu que c'était la variation sous la transformation engendrée par Q de Q de epsilon. Hein, les conventions de signes sont comme ça. Bon. Q de epsilon. Donc, il faut effectuer une transformation de jauge sur cette expression. Donc ça, c'est invariant de jauge, donc c'est FR de phi, c'est invariant pour toutes les transformations de jauge, donc ceci va va disparaître, mais ça va pas être égal à 0. Donc ça va être 2 pi, ça va être k sur 2 pi, intégrale au bord, donc en r égale à r1, de d phi epsilon. Alors, a phi se transforme sous eta en la dérivée d phi, donc je vais écrire prime va être d sur d phi, donc eta prime. Et donc vous voyez qu'alors que les transformations de jauge sont abéliennes, ça commute, hein, c'est la transformation de jauge standard, hein, donc si vous en faites deux sur les champs, ça commute, les générateurs correspondants ont un crochet de Poisson qui n'est pas nul, il est nul modulo une constante. Ceci ne dépend pas des champs, donc c'est une charge centrale. Alors vous pouvez vous dire, tiens, est-ce que c'est évident que ça obéit à toutes les propriétés nécessaires? Je dirais que c'est... Puisque c'est un vrai crochet de Poisson, c'est évident, mais quand même, regardons si c'est vrai. En principe, ça doit être antisymétrique. Mais vous voyez que ceci est antisymétrique, hein, puisqu'on peut intégrer par partie, faire porter la dérivée sur le epsilon, ça me donnera moins. Alors, est-ce que ça obéit à... est-ce que ça obéit bien à l'identité de Jacobi? Donc, si je prends un Q de état, bon, en fait, ici, c'est assez simple, étant donné que ça ne dépend pas des champs. Donc ça, c'est, si je varie ceci, ça fait zéro, donc oui, ça obéit à toutes les propriétés qu'il faut. En fait, parce qu'en fait, c'est une charge centrale ou un cosic sur une algèbre qui est abélienne, donc là, on peut mettre n'importe quoi, il n'y a rien qui vient de l'identité de Jacobi. Bon, mais enfin, donc voilà, donc on a ça. Alors j'encadre, parce que ça, c'est en fait une algèbre qui est connue. C'est l'algèbre de Kasmoudi, avec une charge centrale qui est donnée par ceci. Alors on l'écrit parfois autrement, donc je vais vous l'écrire autrement pour que vous la reconnaissiez. Mais donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait le générateur, donc quand les contraintes sont satisfaites, le générateur se réduit à la composante phi de la connexion. Donc la composante angulaire de la connexion, c'est le générateur des transformations de jauge. Non nul au bord, évidemment. Hein. Donc c'est la composante au bord. Donc c'est ici maintenant. Ça, ça vit à une dimension. Hein. On est ici au bord. Enfin, et puis il y a le temps aussi, mais le temps, je ne l'écris jamais. Hein. On parlera de la dynamique dans une seconde. Enfin, j'espère encore aujourd'hui plutôt. Et donc, on voit qu'on a une algèbre. Alors on va l'écrire en sortant les epsilon et les états. Ceci, on l'appelle parfois, alors comment j'ai normalisé ça? Donc, j'appelle J de phi, K sur 2 pi, A phi. Et donc j'ai envie d'écrire, bon alors c'est un peu, je vais l'écrire comme ça, mais il y a un abus de langage, mais donc, j'ai envie de sortir le paramètre epsilon et état de l'intégrale. Hein. Donc vous voyez, donc, ce crochet si. Donc il faut mettre ça là, puis il faut mettre la même expression mais avec état ici. Et donc je regarde juste le terme au bord, mais je vois que j'ai, oui, c'est k sur 2 pi à phi. Donc il y a évidemment le terme proportionnel aux contraintes, mais je ne l'écris pas, puisqu'on sait qu'on peut prendre que physiquement ça n'est pas important. Donc normalement, pour réellement calculer le crochet de Poisson n'a de sens que pour les objets complets. Hein. On a vu que c'était l'objet complet qui engendre une vraie transformation canonique. Mais comme on a vu que c'était algébriquement cohérent de prendre le quotient par ce qui est là, je ne vais pas l'écrire. Mais retenez que quand même, quand on calcule le crochet de Poisson, ça tout seul, le terme au bord tout seul, n'a un crochet qui est bien défini que si j'ajoute un terme de volume qui peut être n'importe quoi, qui va avec. Qui peut être n'importe quoi, c'est-à-dire que le epsilon ici doit simplement être égal au epsilon de R1 qu'on s'est donné. Alors, comme je l'ai dit, et c'est la question qui m'a été posée par Mario, c'est que il y a beaucoup de redondance ici. On pourrait se poser la question. Donc, si je vous donne epsilon au bord, vous pouvez le prolonger à l'intérieur. Ben, c'est clair, si je vous donne une fonction ici, il y a beaucoup de fonctions à l'intérieur qui prennent cette valeur-là. D'autre part, deux choix différents vont correspondre à un générateur qui n'a plus de terme au bord. Si on a chaque fois le même, quand je fais la différence, ça va. Donc ça va être une transformation de jauge propre, et ça, on sait qu'on peut fixer de jauge. Donc ce qu'on fait parfois, c'est qu'on fixe la jauge de telle sorte que si je me donne la transformation de jauge au bord, je la connais, elle est déterminée par la condition de jauge à l'intérieur. Dans ce cas-là, on peut laisser tomber la contrainte, on travaille avec le crochet de Dirac, mais le crochet de Dirac coïncide précisément avec la structure de crochet induite dans le quotient, donc ça revient au même. Donc c'est pour ça que je ne me soucie pas trop des conditions de jauge, puisque de toute façon on sait que ça ne va pas changer la structure de crochet. Donc on va réécrire le crochet. Donc modulo, donc ceci, c'est quoi? C'est, d'après ce qu'on a vu, k sur 2pi. Donc quand on intègre sur epsilon, dφ, quand j'intègre ici eta, oui, phi prime n'était peut-être pas une bonne... Oui, bon, tant pis. Il y a prime qui est deuxième angle et a prime qui est... donc j'intègre sur phi prime. Je dois reproduire ceci. Et donc on peut lire tout de suite le crochet de Poisson. Ça va être k sur 2pi, donc un dφ de delta de phi moins phi prime. Hein, parce que comme ça, quand vous intégrez, ben, epsilon de phi va sortir et vous allez obtenir la dérivée de eta prime. Hein, puisque, donc si j'intègre ceci en multipliant par epsilon et eta, effectivement, j'obtiens ça. Donc on réécrit parfois cette algèbre ici, en sortant le paramètre, comme ça. Et ça, peut-être, c'est la forme de Kass-Moody que vous avez déjà rencontrée, ou peut-être même vous l'avez même rencontrée en termes des modes de Fourier. Si vous faites la décomposition de Fourier, vous allez obtenir, comme il y a une dérivée, un n, un terme central proportionnel à n. Hein? Donc là, c'est juste réécrire ça sous forme de transformée de Fourier. Mais donc là, la conclusion, c'est que les générateurs des transformations de jauge impropres obéissent à cette algèbre qui est une algèbre de courant, de Kass-Moody abélienne. Il n'y a pas de terme proportionnel à J avec une charge centrale donnée par ceci. Et donc, qui fait apparaître K, si je normalise les choses comme je l'ai fait là. Alors, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que les J-phi sont des observables. Donc, cette quantité-ci est observable. Pourquoi? Parce qu'on a vu que si je fais une transformation de jauge propre sur Q de epsilon, ça ne change pas. Donc c'est invariant sous les transformations de jauge propres. Donc par définition, c'est une observable. Mais c'est une observable qui clairement ne dépend pas des courbures uniquement. Les courbures sont nulles dans Chern-Simons, hein, on a vu ça. Les équations du mouvement, elles impliquent FR phi égale à zéro. Donc si les seuls observables étaient les fonctions de FR phi, la théorie serait très pauvre, il n'y en aurait pas. Mais puisque les observables ne doivent être invariants que pour les transformations de jauge propres, et qu'il y a des choses qui se passent au bord, ben on a des observables non triviales qui sont ces J de phi. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, justement, donc ça, je vais peut-être regarder cette question-là maintenant. Je pense que je ne voulais rien dire. Donc, on va regarder ça maintenant et je vais terminer par ça. Donc, s'assurer que... Donc, la question qu'on pourrait se poser... Bon, si on demandait l'invariance stricte sous toutes ces transformations-là, la réponse, elle est connue. Quels sont les observables? C'est les fonctions des courbures et de leurs dérivées... en nombre quelconque. Comme maintenant, je demande quelque chose de moins fort, j'ai plus de solutions. Et j'ai des solutions non triviales, sinon je n'aurais que des solutions triviales. J'ai plus de solutions, et notamment ça, c'est des observables. Question, est-ce qu'il n'y en aurait pas encore d'autres? On perd un peu ses marques quand on est autorisé à considérer des choses qui ne sont pas invariantes sous toutes ces transformations-ci. Donc, ce que je vais montrer maintenant, c'est que les J de phi, bon, qui sont soumis à la condition d'holonomie, hein, constituent un ensemble complet d'observables. C'est-à-dire que toute quantité qui est invariante sous les symétries de jauge propres est nécessairement une fonction de ces J phi. Il n'y en a pas d'autre. Elle est complètement déterminée par les J phi. D'accord. Avant, oui, s'il y a des questions, c'est bien, parce que je sens une certaine... Oui. Un anneau, j'espère le faire plus tard dans le cours, oui. D'autres observables, sur chaque bord, j'aurai des observables, mais qui seront... Il y aura une condition d'holonomie toujours aussi, qui va me donner des conditions sur les observables ici et les observables sur les autres bords, puisqu'il faudra que la courbure soit nulle à l'intérieur, et donc on va pouvoir relier... Donc si j'avais je peux relier l'intégrale de Hafi ici à l'intégrale de Hafi là en considérant ce parcours-ci et en utilisant le fait qu'à l'intérieur la courbure est nulle. Donc effectivement, donc le nombre d'observables va dépendre du nombre de bords dans ce cas-ci et la condition d'holonomie va se généraliser. Et donc, en fait, on aura plusieurs algèbres dans ce cas-ci de Kac-Moody. Alors, dans le cas non abélien, la condition d'holonomie est un peu plus compliquée, hein, puisque il faut ordonner le long du chemin, hein, donc c'est plus compliqué de voir, mais enfin, il y a des conditions d'holonomie aussi. Donc, dans le cas non abélien, ça ne va pas être simplement que le mode zéro des courants est nul, c'est une holonomie qui devra être nulle. Alors, donc dans le cas d'un abélien, il y a un indice ici. Et donc, il y aura la métrique invariante et il y aura un terme proportionnel au J qui apparaît. Donc, on a vraiment une algèbre de Kac-Moody aussi dans ce cas-là. Enfin, continuons avec le cas abélien. Donc, je voulais poser la question suivante. Je travaille sous le disque. Donc, enlevons le... Il y a d'autres questions ? Ceci, c'est purement classique. Oui, il y a aussi des observables liés à la topologie en plus, donc il peut y avoir beaucoup de choses. Donc ici, je prends le cas le plus simple d'un disque. Et j'ai aussi... Non.
Je pensais
qu'il vient avec des boules. Oui, donc là, je n'ai pas. Et alors aussi, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question... est-ce qu'il faut demander la périodicité stricte, ce que j'ai fait ici, mais on peut généraliser aussi. Et donc il y a des choses en plus alors qui apparaissent. Et surtout que U1 en plus n'est pas un groupe simplement connexe. Enfin, en d'autres termes, oui. Et donc de ce fait-là, il y a des choses qui peuvent apparaître. Mais je considère le cas, déjà même si on oublie ça et qu'on reste dans ce secteur-là, il y a des choses qui apparaissent. Alors que FR phi est égal à 0, enfin que la courbure est nulle. Donc, et puis, il peut y avoir d'autres choses qui apparaissent en plus. Mais effectivement, donc l'affirmation où je dis que les seuls observables sont fonction de ça, c'est vrai dans le cadre classique que je me suis donné, avec les conditions sur les AFI, qui sont périodiques et non pas d'holonomie, que je me suis donné. Et en fait, je vais le démontrer. Je vais montrer que si je donne les courants au bord, c'est-à-dire les Hafi au bord du disque, je me donne Hafi. Donc c'est le problème classique suivant. Et je me pose la question, est-ce que ceci me détermine Hafi partout? Donc ça, c'est en R égale à R1. Donc c'est ça la question, en fait. Je me donne ceci. Et avec la condition d'holonomie, bien sûr, et je me pose la question, connexant à phi, est-ce que le A est complètement déterminé à une transformation de jauge propre près à l'intérieur? Si la réponse est oui, ça veut dire que ceci me caractérise complètement la situation physique et qu'il n'y a pas d'autres observables. Donc je répète, la question que je vais me poser, c'est la question suivante. Je me donne le potentiel vecteur à phi au bord. C'est-à-dire, je me donne ces J au bord, soumis à la condition, parce que je suis sur le disque ici. Et je me pose la question, alors je sais qu'à l'intérieur, les solutions doivent obéir à FR phi égale à 0. Je me pose la question de savoir si, connaissant A phi, le potentiel vecteur le plus général à l'intérieur de courbure nulle, qui coïncide avec le Hafi que je me suis donné, est déterminé complètement à une transformation de jauge propre près, puisqu'on consciente par les transformations de jauge propre. Et c'est un exercice assez facile de voir que la réponse est oui, et je vais essayer de le faire sans me tromper après 3 heures, c'est possible, j'espère. Donc l'idée, c'est qu'on va fixer des transformations de jauge propres et puis on va voir si effectivement A est complètement déterminé. Donc le problème qu'on se pose, c'est le suivant. Je répète, on cherche la connexion A mu de courbe, à courbure nulle sur le disque, parce qu'il faut obéir à FR phi égale à 0, qui prend des valeurs prescrites sur le bord. Donc on se donne la valeur au bord, on sait que ça doit être à courbure nulle, et on se pose la question, quelle est la connexion la plus générale qui obéit à ces conditions? Et je prétends que la réponse est une solution particulière plus une transformation de jauge propre quelconque, qu'on a toujours la possibilité de faire si on n'a pas fixé la jauge. Alors, comment on fait ça? On regarde les équations FR phi égale à 0. Oups. Si j'ai bonne mémoire. Et donc ça, c'est dr de A phi moins d phi de AR est égal à 0. Alors AR, c'est une fonction qui dépend de phi, de R et de phi, hein, en général. Donc je prétends que je peux toujours l'écrire. C'est là qu'on va voir que la topologie du disque est importante. Je peux toujours écrire AR comme dr de, d'un certain lambda. Hein, j'intègre, pour trouver lambda, ben je prends la prime, j'intègre le long de R, le AR qui m'est donné. Donc je peux toujours écrire ça. Et alors l'équation, donc ça c'est une reparamétrisation. Bon, évidemment, lambda n'est pas complètement déterminé, mais je peux toujours faire ça. Et alors, si j'injecte ça dans l'équation qui est là, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir dr de A phi moins d phi dr de lambda est égal à 0. Donc je reprends le raisonnement. Je choisis de paramétriser AR comme ça, ce que je peux toujours faire. Comment je le fais? En intégrant, par exemple, à partir de 0. Donc il y a plusieurs lambda qui obéissent à ça. Hein, mais donc j'intègre sur R. Donc c'est pas un changement de variable. Si lambda, j'ajoute une constante, effectivement, je tombe sur le même AR. Mais en tout cas, si je me donne AR, je peux certainement trouver un lambda qui satisfait à ça. Et je réinjecte dans cette équation-ci pour voir ce que ça me donne. Et ça me dit que dr de A phi moins d phi lambda est égal à 0. C'est-à-dire que A phi moins d phi lambda est une fonction de phi uniquement. Alors, donc c'est une fonction qui est définie sur le bord. Alors, toute fonction de phi peut s'écrire, si elle n'a pas de mode 0, comme le défi de quelque chose. Soyons imaginatifs de rho, par exemple. Donc, si je vous donne une fonction de phi, vous pourrez l'écrire comme la dérivée d'une autre fonction de phi bien définie, périodique, si et seulement si elle n'a pas de mode 0, hein, parce que le mode 0 va vous introduire un A0 fois phi, qui n'est pas périodique. Mais si c'est des cosinus et des sinus, hein, vous prenez la primitive d'un cosinus ou d'un sinus, c'est toujours quelque chose de périodique. Donc pour autant qu'il n'y ait pas de mode 0, je peux écrire ça. Or, il y a la condition d'holonomie qui me dit que A phi n'a pas de mode 0, et qui me dit aussi que des phi de lambda, si j'intègre sur phi, il n'y a pas de mode 0. Donc en fait, je peux écrire ceci, et donc je peux écrire A phi comme égal à d phi de lambda plus rho de phi. Et je peux écrire aussi AR, on l'a vu, comme dr de lambda, mais puisque ceci va dépendre que de phi, hein, rho ne dépend que de phi, je peux aussi mettre, si j'ai envie, un rho de phi. En d'autres termes, je peux toujours, sur le disque, écrire A phi et AR comme des dphi et dr, de quelque chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que la théorie est triviale. Hein. Donc ça veut dire que je peux toujours écrire AI, donc, je répète, hein, je peux écrire AFI ou AI de manière générale comme DI de quelque chose. Bon, alors maintenant, là j'ai résolu les équations, mais ce quelque chose, il y a maintenant ma condition, je dois tenir compte de ma condition au bord. Et la condition au bord, c'est qu'il faut que AFI prenne des valeurs bien déterminées. Oui, peut-être avant même de dire ça, vous voyez que la quantité, si je vous donne AI, la quantité qui est ici est déterminée à une fonction, à une constante près. En fait, je suis en train de redériver le lemme de Poincaré pour le disque devant vous. donc ici, on a une. On peut ajouter quelque chose qui est effectivement annihilé par DI, hein, et c'est-à-dire une constante. Il n'y a rien d'autre parce qu'on est sur le disque. Donc je peux toujours écrire ça comme ça. Alors quand je dis que c'est une constante qui peut dépendre du temps. Donc il y aura éventuellement. Je peux dire que j'ai une fonction du temps, mais en fait, comme je travaille pour le moment à temps fixé, cette fonction du temps, c'est une constante. Donc on sait ceci. Alors maintenant, la solution la plus générale de l'équation FRφ égale à 0, c'est AI qui prend cette forme-là. Maintenant, on impose aussi la condition, c'est que AΦ prennent. Donc, je vais peut-être effacer, mais donc ça on retient. Donc je sais que je peux toujours écrire A, et on va quand même on va donner un autre nom. Qu'est-ce que j'avais appelé ρ? Et A phi égale d phi de ρ, où ρ est une fonction de R. Et de phi défini à une constante près. Maintenant, ρ peut pas être entièrement quelconque parce qu'il faut que phi, il faut que αφ prenne une valeur bien déterminée en r égale à r1. Donc on a la condition que d phi de ρ en r égale à r1 phi doit être égal au αφ qu'on s'est donné au bord. Donc si je me donne ça, les seuls changements que je peux faire dans ρ, je peux modifier ρ par ρ plus une fonction f de r et de phi. Hein, ça va toujours être une solution de la courbure nulle, bien sûr. Ça va changer a, r et a phi, mais ce sera toujours solution de f, r, phi. ρ peut être quelconque ici. La seule condition cependant, c'est que ρ obéisse à cette condition-là si je me fixe a phi au bord. Et donc là, je peux transformer ρ par une fonction quelconque, ça ne va pas changer FRφ égale à 0, mais ça risque de changer αφ au bord. Ça ne changera pas αφ au bord si dφ de f est égal à 0. Est-ce que c'est juste ça? Oui, si dφ de f est égal à 0 et que je fais une transformation comme ça, eh bien, je ne vais pas changer αφ, hein, au bord. En R égale à R1, pardon. Donc vous voyez que les seules transformations de jauge qui restent dans le problème, je me donne un phi au bord, faire phi doit être égal à 0, c'est les transformations de jauge caractérisées par un paramètre de jauge qui n'est pas nécessairement nul au bord, mais dont le mode 0 est égal à 0. Et on a juste vu que ça fait partie de la classe des transformations de jauge triviales. Et donc on voit que Et donc on voit qu'effectivement se donner le courant au bord, donc j'appelle ça le courant parce qu'on appelle ça aussi parfois une algèbre de courant, donc se donner a phi au bord, c'est la même chose à k2 sur 2 pi près, me détermine complètement à une transformation de jauge propre près la solution. Et donc effectivement il n'y aura pas d'autres observables indépendantes, puisque si je connais ça, je connais toute la physique. Donc toute la physique réside au bord, est donné par ces observables qui obéissent à cette algèbre de Kac-Moody. Il est exactement 1,5, 29, mais enfin, je vais m'arrêter ici. Donc, voilà, je voulais conclure par ça, mais donc, voyez que c'est important de voir qu'il existe des observables dans une théorie qui dépend d'un potentiel vecteur qui peuvent ne pas être exprimables en termes des courbures. Donc c'est une des leçons. Et elles ont une algèbre qui peut être particulièrement intéressante et riche, ici Kass-Moody, avec une charge centrale non triviale. Et tout ça, c'est classique. Donc cette charge centrale est une charge centrale classique. Voilà, ben donc on va arrêter ici et on reprend la semaine prochaine, qui sera une semaine un peu plus normale, puisqu'il y aura un cours d'une heure et demie et un séminaire d'une heure et demie. Et si j'ai bonne mémoire, il est donné par Monica Guica, mais ma mémoire ne me permet pas de vous donner le titre. Voilà.